pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Qui se souvient de la loi Ciotti ? Elle n'a certes pas vécu très longtemps, puisqu'elle a été votée en 2010, appliquée en 2011 et abrogée en 2013. Mais elle mérite tout de même qu'on s'y intéresse. Le but alors de ce député, jadis UMP, c'est de lutter contre l'absentéisme scolaire. Une juste cause, bien sûr. Mais son idée est plus délicate. Il pense que puisque les heures de colle, les bonnets d'âne, les lignes à copier, les retenues du samedi matin et autres châtiments corporels ne semblent pas marcher, il faut punir les parents. Alors comment on punit les parents ? Eh bien, on supprime leurs allocations familiales, par exemple. Au bout de 4 demi-journées d'absence, c'est l'avertissement. Si le mauvais comportement des parents continue, c'est la sanction. Hop, les allocations disparaissent. Et la sanction n'est levée que si les absences des enfants cessent. 4 à 5 ans après l'abrogation de cette loi, on sait précisément quels ont été ses effets sur l'absentéisme. Sur 600 suppressions qui ont eu lieu entre 2011 et 2012, par exemple, 150 allocations ont seulement été rétablies. Ce qui veut dire que le taux d'inefficacité de la sanction est de 77% au final, puisque si les allocations n'ont pas été rétablies, ça veut dire que les enfants ne sont pas retournés à l'école et que l'État a gagné au passage quelques sous. Au Royaume-Uni, aujourd'hui encore, ce n'est pas juste une suppression des allocations que risquent les parents d'enfants qui sèchent trop souvent. C'est une amende qui peut s'élever jusqu'à 2500 livres et jusqu'à 3 mois de prison. Entre 2003 et 2006, plus de 70 parents ont été emprisonnés pour les absences répétées de leurs enfants. En 2004, Patricia Amos, à Banbury, a été condamnée à 28 jours de prison pour l'absentéisme de sa fille de 14 ans. Elle avait déjà été condamnée 2 ans plus tôt à 60 jours de prison pour la délinquance de son autre fille Emma. Heureusement que nous sommes en France. Heureusement, aujourd'hui dans les pieds sur terre, c'est une histoire qui n'a rien à voir, ou presque, comme on l'entend jusqu'à 14h sur France Culture, au micro de Rémi Douat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Malia, j'ai 31 ans, j'ai 4 frères et 4 sœurs. Je suis la plus aînée des filles. Donc, en juin 2009, j'étais avec mes deux sœurs, Kilia, qui a aujourd'hui 10 ans, et Lala, qui a 19 ans.
Donc, on était un lundi matin, il était 6 heures, je dormais, mes frères et sœurs dormaient aussi, et mes parents étaient au travail. J'ai soudainement été réveillée par un bruit qui venait de la porte, et à peine le temps d'ouvrir les yeux, que j'entends « police, police, que personne ne bouge ». Ils avaient défoncé la porte et donc en me réveillant, je les vois en face de moi, des flashballs à la main, avec des lampes et des brassards.
Donc on se retrouve sans nos parents qui sont allés travailler et avec les forces de l'ordre qui cherchent un individu dans l'appartement. Donc ils se dirigent en courant vers les pièces de l'appartement et interpellent mes trois frères qui dorment dans la même chambre.
Bon, du coup, ils les ont tous menottés. Et puis, ils nous ont tous réunis dans le salon, sauf mon frère Issa, pour qui ils étaient venus, qui était resté dans la chambre avec lequel ils étaient en train de passer un interrogatoire. Donc, à la suite de ça, ils ont commencé à fouiller dans tout l'appartement.
Quand je leur posais des questions sur pourquoi est-ce qu'ils étaient dans l'appartement de mes parents, ils me demandaient de me taire. Ils ne voulaient pas me répondre. Je les voyais faire des allées-venues. Il y en a qui étaient en civil, il y en a qui étaient avec leur tenue de policier. Et on ne savait absolument pas ce qu'ils cherchaient. Ils étaient en train de fouiller la chambre. Ils enlevaient les vêtements, ils soulevaient les matelas. J'entendais les talkie-walkie. Et je me rappelle très bien que ma petite sœur Kilia, qui est là, était dans son berceau à l'époque, puisqu'elle avait 2 ans. Et je suis allée la chercher, elle pleurait, donc je l'ai pris dans mes bras en nous disant de ne pas s'inquiéter, que ça allait bien se passer. C'était comme dans un cauchemar en fait, comme si je n'étais toujours pas réveillée. Donc j'ai attendu que ça se finisse au bout d'une heure et demie. Donc en fait, à la fin de la perquisition, je vois les policiers tenir le bras de mon petit frère, Issa, et partir avec lui Il a la tête baissée, nos regards se croisent et ils prennent la direction de la porte de sortie.
Il était 8h30, à cette époque-là j'étais en CM2, j'avais 10 ans, donc je suis quand même partie à l'école. Et puis en descendant, j'ai vu des policiers dans toute la cité en fait. Il y avait environ 7 familles qui étaient impliquées.
Alors ma mère rentre du travail à 9h30 à peu près. La porte est défoncée, donc entrouverte. Elle rentre et elle me demande ce qui se passe. Et je lui dis, voilà, la police est venue, a cassé la porte et a embarqué ton fils, Issa. Et donc de là, elle commence à ne pas se sentir bien. Elle est diabétique, donc elle s'assoit. Elle est à deux doigts de perdre connaissance. Donc je lui apporte de l'eau, je la rassure. Elle se calme. Ensuite, son premier réflexe, c'est d'appeler mon père qui se trouve au travail. Donc mon père, au bout d'une heure, rentre à la maison et voilà, découvre l'appartement et nous demande ce qui s'est passé, les détails de la scène. Et c'est en fait finalement le lendemain matin qu'on sait ce qui s'est passé, puisque Le Parisien, édition Hauts-de-Seine, rédige un article sur ces arrestations, dit qu'il y a eu un démantèlement de trafic de cannabis dans cette cité. Et on découvre que mon petit frère est lié à ce trafic, à ce moment précis. Donc, il avait repris une activité professionnelle, qu'il avait arrêtée, c'est vrai, depuis quelques semaines. Mais jamais je me serais douté qu'il serait allé dans cette voie-là, surtout qu'il ne représentait pas l'image qu'on peut se faire d'un dealer. Je ne le voyais pas traîner en bas, dans les halls. Il avait un emploi dans un restaurant et ensuite... Il ne voyageait pas aux quatre coins du monde, il ne portait pas de montre de luxe. Lors de la perquisition, les policiers n'ont trouvé aucune somme d'argent, par exemple, ni aucune drogue. Donc, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, après 72 heures de garde à vue, il a été dirigé vers la maison d'arrêt de Nanterre. Et il a attendu, il était en mandat de dépôt, donc il attendait son procès.
Du coup, un matin, j'étais à la maison avec mes parents et la porte a sonné. J'ai été ouvrir la porte et un monsieur avait un courrier dans les mains et il me demandait si un de mes parents était là. Du coup, j'ai été chercher mon papa. Il est venu à la porte et a dû signer un papier pour que le monsieur puisse lui remettre un courrier. Donc, mon père ouvre la lettre sous mes yeux et je vois qu'il commence à avoir du mal à respirer. J'ai pris la lettre de ses mains et j'ai lu que c'était une convocation au tribunal d'instance de Boulogne. Mes parents étaient convoqués par rapport au sujet de l'appartement.
En effet, après avoir lu l'assignation à comparaître, je me rends compte que le but ultime de cette procédure, c'est une expulsion. Tous les habitants sont menacés d'expulsion locative avec, si nécessaire, concours des forces de l'ordre. Mon père, en fait, est reconnu comme responsable, en fait, des faits de délinquance de mon petit frère, dans la mesure où mon petit frère, majeur, habite toujours dans l'appartement à ce moment-là. Donc, la responsabilité de mon père est mise en cause. On lui reproche un fait de trouble de jouissance. Donc, le trouble de jouissance, j'ai voulu savoir ce que c'était, et je me suis rendu compte que, juridiquement, c'était le fait de nuire à ses voisins, des nuisances visuelles, sonores ou olfactives, causant un préjudice direct aux voisins. Et je me suis immédiatement rendu compte que nous n'étions pas dans ce cas de figure, puisque ma famille habitait dans cette cité depuis maintenant 11 ans, et qu'aucune plainte contre nous n'est déposée, aucun problème avec nos voisins. Lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ils étaient sous le choc, eux-mêmes, et nous ont immédiatement proposé du soutien, de l'aide, des attestations. Au départ, je me dis qu'ils vont jamais se faire expulser puisqu'ils n'ont rien fait. Ayant connu le mal logement, je me revois dans ces conditions-là et je me dis qu'il est hors de question que mes petites sœurs retourne dans ces conditions de mal logement, etc., que moi j'ai pu vivre pendant mon enfance et mon adolescence. Mais en fait, on a un parcours locatif difficile dans tous les Hauts-de-Seine, de Boulogne à Antony, passant par Nanterre. Nous étions ce qu'on appelle des sans domicile fixe. Alors, le premier hébergement qu'on a eu à Boulogne-Billancourt, c'était un marchand de sommeil qui a loué à mes parents un cabanon en fond de cour. En fait, c'était une construction illégale. Mes parents ont fini par le savoir lorsque le syndicat de copropriété de la ville a attaqué le propriétaire en justice. Donc, on a été condamné à l'expulsion. Ensuite, à la suite de ça, on a été recueillis dans un centre d'hébergement d'urgence à Antony, dans lequel on est resté à peu près un an. Donc, on a été déscolarisés, nouveaux camarades de classe, nouvel environnement, très difficile. Ensuite, le centre d'hébergement n'a pas pu nous garder plus longtemps que ça. Donc, on a été dans un hôtel dans le 92 à Nanterre, dans lequel on est resté une à deux semaines. On a été déscolarisés. Et finalement, le dernier lieu dans lequel on a vécu avant de déménager dans cette cité, c'est un immeuble qui a été réquisitionné à Boulogne-Billancourt sur l'ancien site de Renault. Et c'est un immeuble en fait qui date de la guerre. L'immeuble était carrément en ruine. On était censé rester 6 mois, on a fini par y rester 7 ans. J'ai des souvenirs assez pénibles, assez douloureux. Le fait de changer d'école assez régulièrement, le fait de vivre dans des conditions insalubres, d'avoir une enfance où on est ballotté, où on n'a pas de repère stable, où on ne sait pas le lendemain où est-ce qu'on va atterrir. Okay. Donc en tout et pour tout, au bout de 16 ans d'attente, on a finalement été locataire dans cette cité HLM. Dans un logement, on va dire normal, salubre, qui pouvait accueillir l'ensemble de ma famille et dans lequel on pouvait se construire sans être ballotté de droite à gauche. Voilà, j'avais 18 ans précisément. Je venais d'obtenir mon baccalauréat dans un lycée de la ville. Et c'était la première fois que je découvrais l'univers de la cité, parce qu'on n'avait jamais vécu en cité HLM. Donc je découvrais des nouveaux codes, on va dire. Et à partir du moment où on a connu le mal logement, on a tout à fait conscience de l'importance d'un toit au-dessus de sa tête. Donc cet appartement qui nous a été donné au bout de 16 ans d'attente, on y a pris soin. On a respecté les lieux et l'usage qu'il fallait faire de ces lieux. Mais l'office HLM est déterminé à vouloir voir ma famille entière à la rue. Je me suis dit qu'avant tout, c'était une méthode qui nous était appliquée. En l'occurrence, cette fameuse méthode du Karcher, qui consiste, pour un problème profond, à utiliser de la haute pression destinée au salissure les plus tenaces. Donc on se rend compte que ça va être très très difficile. On se rend compte également que l'affaire est finalement politisée et que en fait on veut faire de nous un exemple. En fait, il y a un espèce d'emballement médiatique autour de cette affaire et autour de nous. Donc, il va falloir gérer les relations avec les médias, avec les journalistes. Il va falloir gérer le côté juridique. Donc, on prend une avocate.
C'était pour moi la première fois. Je m'étais jamais rendue dans un tribunal. Et donc, on était accompagnés de notre avocate. Et la juge était assez étonnée de nous voir. Il y avait moi qui avais 14 ans à cette époque-là. J'étais avec mes petites sœurs aussi, une qui avait seulement 10 ans et l'autre qui en avait 5. Et puis, il y avait aussi des médias et des policiers, parce que le bailleur a demandé qu'il y ait des policiers à chacun des jugements. Donc, pendant le procès, j'avais quand même beaucoup d'espoir en moi. Et notre avocate a essayé de nous défendre un maximum, mais on voyait bien que la juge prenait le dessus et qu'on n'avait pas beaucoup de chance de s'en sortir. Et le verdict est tombé. La décision a été que l'expulsion a quand même été prononcée. Quand on m'a expliqué que on risquait d'être expulsé. Je me posais une multitude de questions. Je me demandais ce que j'allais pouvoir faire, comment j'allais pouvoir continuer mes études, si on allait déménager dans une autre ville ou même être à la rue. Et puis j'ai des amis qui étaient au courant, du coup, qui m'ont soutenue, qui m'ont dit que quoi qu'il arrivait, elles allaient être à mes côtés et que je ne serais pas à la rue et seule.
Alors moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais dans mon école de commerce, et je me souviens très bien, j'étais en cours d'économie financière. Et j'ai reçu un texto, donc j'ai pas pu rester à ma place, donc je suis sortie de la salle. Et je suis allée dans les toilettes, et j'étais KO, incrédule. Je me demandais comment c'était possible dans un pays comme la France, qu'on soit condamné pour des actes qu'on n'ait pas commis. Je me remettais énormément de choses en question, de ma place à la société, à un certain écœurement et un profond sentiment d'exclusion et d'incompréhension. Je me suis battue depuis mon enfance pour m'en sortir. Je me bats toujours. J'ai vraiment tout donné pour m'en sortir et pour aller vers la réussite. Et finalement, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai des parents qui sont issus d'une ancienne colonie française, c'est le Mali. J'ai un père qui est arrivé en France à l'âge de 20 ans. Et qui est arrivé à l'époque des Trente Glorieuses, et donc qui a commencé dans l'industrie. Ensuite, avec la crise, il s'est tourné vers le secteur tertiaire, donc a fait beaucoup de ménage, en a fait jusqu'à sa retraite. Un père extrêmement courageux, un père qui nous a tous portés, qui a toujours voulu le meilleur pour nous. Une mère qui également se bat et s'est battue au quotidien à travers des ménages, alterner dans la journée, matin et soir, pour nous assurer une sécurité d'un toit, tout simplement. Et aujourd'hui, pour les actes d'un seul, en fait, tout ça s'est remis en cause. Moi et mes frères et sœurs, on a toujours fait ce que mes parents nous ont demandé, ce que la société française nous a demandé, c'est-à-dire aller vers l'intégration, aller vers un épanouissement scolaire, aller vers des valeurs vers lesquelles la République nous demande d'aller. Donc, depuis ma naissance, j'entends beaucoup le mot intégration. C'est un mot que j'entends tout le temps. Et je le comprends, ce mot, en fait, c'est faire partie intégrante d'un ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis ma naissance. Et malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que cette requête qu'on a auprès de nous, eh bien, en fait, elle est contrebalancée par des méthodes comme celle-ci qui visent à nous exclure, finalement, de la société. Donc aujourd'hui, moi, j'ai du mal à percevoir ce qu'on me demande, en fait. Je voudrais que ça soit plus clair, qu'on me dise ce qu'on attend réellement de moi. Est-ce que c'est de m'intégrer et d'avoir des diplômes, de participer à la croissance, à faire que le taux de chômage y se réduise, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'on met dans le même sac poubelle que des délinquants? Est-ce que ça sert à quelque chose finalement de faire des études, puisque finalement je suis mise dans le même sac que ceux qui s'orientent vers la délinquance, la facilité, alors que moi je mets tout en œuvre pour y arriver, et que finalement une méthode comme celle-ci nuit quelque part à ma scolarité, puisque j'ai traversé cette épreuve en étant en master, en école de commerce, et ça a été très difficile d'avoir dans un coin de ma tête cette procédure-là, et dans l'autre coin, de devoir faire un mémoire de fin d'études, de devoir présenter des travaux collectifs, de devoir faire des recherches et d'obtenir mon diplôme. Finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur et on est condamné par notre statut social. Je suis, moi, diplômée d'un master en finance. J'ai un grand frère qui est plombier. J'ai mon petit frère qui est comptable. J'ai mon autre petite sœur qui est en cours d'obtention d'un master. J'ai Lala ici présente qui est en première année de médecine. Une autre petite sœur qui est en classe de troisième, qui est première de sa classe et qui s'apprête à passer son brevet des collèges. Un autre frère qui est en cours d'obtention d'un master ingénieur d'affaires. Et j'ai ma dernière petite sœur cadette qui est là et qui est en classe de CM2 et qui va passer en sixième. Donc, hormis le parcours assez chaotique de mon petit frère, pour nous autres, on est, on va dire, des gens intégrés. On essaie de s'en sortir à travers nos études. On est reconnus comme des élèves studieux, investis, des gens polis, bien élevés. Donc, effectivement, on a été élevés de la même manière, mais lui a choisi une autre voie. Donc l'effet de trafic de stupéfiants et les nuisances que ces trafics ont pu amener ont été condamnés par la justice quelques mois plus tard, puisque mon petit frère a finalement été condamné à de la prison ferme avec sursis et également une interdiction de se rendre dans la ville pendant 12 mois. Et en addition, ben, on veut que toute la famille soit expulsée. Alors à partir de là, on se rend compte que s'il y a victoire, elle ne sera pas sur le terrain de la justice à proprement parler, qu'il faut qu'on aille sur un tout autre terrain, celui de la mobilisation. Donc mobiliser nos forces pour faire réagir l'opinion publique et aussi les pouvoirs publics. Donc moi, à cette époque-là, j'étais en train de préparer mon master et je me disais qu'il fallait tout simplement que j'écrive une lettre, mais que cette lettre, ça devait pas être n'importe quelle lettre. En fait, cette lettre, elle devait refléter ce qu'était ma famille, notre parcours locatif, ce qu'on était culturellement, psychologiquement, économiquement d'ailleurs. Et je me suis dit qu'il fallait que j'apporte des évidences de ce qu'est réellement ma famille. Donc un soir, j'ai commencé à rédiger cette lettre qui, au final, a fait 12 pages. Et j'y ai annexé des pièces jointes qui ont fait également 70 pages. J'avais... par exemple, photocopier tous les diplômes que ma famille avait obtenus, tous les courriers de soutien que nous avions eus de part et d'autre, que ces courriers proviennent de politiciens ou des écoles. Ce dossier, je l'ai imprimé. On s'est réunis, moi et mes sœurs, et on l'a assemblé. En tout et pour tout, j'ai imprimé plus de 4000 pages que j'ai rassemblées avec mes petites sœurs dans le salon familial de mes parents. Et on a envoyé ce dossier. On l'a déposé un matin à la mairie de Boulogne-Billancourt, au service centralisateur courrier, pour l'envoyer à tout l'ensemble du conseil municipal de Boulogne-Billancourt, mais également à des ministres, tous les ministres concernés, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale et autres. Donc le destinataire principal, c'était le maire de la ville. Je lui ai demandé une rencontre. Et à la suite de ça, une semaine avant l'expulsion, la date qui était fixée au 11 septembre 2014, j'ai reçu un appel sur mon téléphone portable d'un élu de la ville de Boulogne-Billancourt. Donc elle me demande de nous rencontrer, ce que j'accepte, puisque je me dis que c'est une chance de rencontrer un élu de la majorité à une semaine de l'expulsion, et que peut-être il a été touché par mon courrier. Très optimiste, je pense que nous allons nous rencontrer autour d'une table, à la mairie, dans son bureau, et que nous allons converser et trouver un terrain d'entente. Finalement, le jour de la rencontre, il me rappelle et me dit qu'il est au pied de la cité HLM et qu'il souhaite me rencontrer dans un restaurant qui se trouve au pied de la cité HLM et qui est un restaurant kebab grec frites. Et je prends conscience que les seuls endroits où, en fait, où on souhaite nous recevoir, c'est au pied de nos cités, dans des kebabs. Alors, dans ce fameux restaurant, il commande à dîner et m'explique qu'il a bien reçu mon courrier. Alors, cet élu est au courant que, dans la continuité de nos actions, nous envisageons de nous rassembler devant l'hôtel de ville de Boulogne-Billancourt. Il est mis au courant puisque des élus de l'opposition nous soutiennent dans notre combat. Alors, pendant cette rencontre, il tente de me dissuader de me rendre à ce rassemblement, puisque j'ai l'impression qu'il le vit comme un assaut politique. Donc, je lui explique que je ne fais partie d'aucun parti politique, que je ne fais que défendre ma famille et que je vais me rendre à ce rassemblement. Donc, il essaye de me faire douter et me dit que, étant donné que des jeunes de la cité vont venir, il y aura peut-être une émeute. Alors, je réfléchis, je me dis, effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Mais je lui explique que nos familles veulent se rassembler dans la dignité et que notre but est simplement de nous faire entendre et en aucun cas de semer du trouble dans la ville. Alors, sur cette conversation, on se quitte à la porte de ce restaurant.
Aujourd'hui, du coup, je suis en première année de médecine. J'essaye de me battre un maximum pour pouvoir sortir de cette situation. Par contre, la première année de médecine, c'est une année super difficile. D'ailleurs, hier, j'ai passé mes examens. Et du coup, moralement, c'est une année compliquée. J'ai en tête l'expulsion. Je ne sais pas si dans quelques mois, je serai toujours logée. Donc j'essaye vraiment de me battre et de continuer quand même avec plein d'espoir.
Alors aujourd'hui, en 2017, la situation de ma famille est toujours aussi précaire. La décision a été rendue Le bail a été résilié, malgré qu'on se soit battu de toutes nos forces. Du jour au lendemain, mes parents et mes petites sœurs mineures peuvent être expulsés. Donc, ils vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils sont dignes, donc ils continuent à payer leur loyer comme ils l'ont toujours fait. Ils ne payent plus un loyer à proprement parler, ça s'appelle un titre d'occupation. 1000 euros par mois, c'est la principale charge qu'ils ont. Donc, ils vivent difficilement cette situation. Ils font au mieux pour rester la tête en dehors de l'eau et garder espoir sur leur avenir.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, l'expulsion, un reportage de Rémi Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Malia et à Liana Valken qui est notre nouvelle stagiaire. Sandrine Chaperon, vous savez, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, page Facebook, compte Twitter. Attends de vos interventions, vos likes, vos retweets, vos commentaires, vos manifestations diverses et variées avec impatience.